J'en étais resté la semaine dernière. On était en plein milieu d'une sous-partie. On venait de voir les conciles œcuméniques. Et je pressentais que vous alliez me poser une question. Le pape dans toute cette histoire. Hein. Qu'en est-il du pape dans toute cette histoire? A-t-il dans l'église tardo-antique la même place que celle qu'il occupe dans l'église d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'église post-réforme grégorienne? Bon. Ça va être en fait le terme de notre semestre, parvenir à la réforme grégorienne et à la genèse de la monarchie pontificale. Donc, je réponds à la question par la négative. Non, le pape n'a pas dans l'église tardo-antique la place qu'il occupe dans l'église d'après le XIe siècle. Le pape est l'évêque de Rome, un peu comme n'importe quel évêque, mais il a déjà un prestige particulier. Un prestige particulier pour deux raisons. D'abord, Rome est la capitale de l'Empire, uniquement dans un certain sens, puisque l'empereur n'y réside plus. L'empereur vit dans des villes plus proches de la frontière pour mieux contrôler l'armée et pour mieux réagir aux invasions, donc des villes comme Milan, Ravenne, Trèves, en Germanie. Mais Rome est toujours la ville la plus prestigieuse de l'Empire, la ville où se trouve le Sénat et où il y a toujours le grand palais du Palatin. Donc l'évêque de Rome a d'abord un prestige particulier parce qu'il est à Rome. Que Rome est une des plus vieilles communautés chrétiennes, documentée par le Nouveau Testament, comme vous le savez, et l'une des plus nombreuses parce que Rome est une ville énorme, hein, entre 500 000 et 1 million d'habitants. Donc ça fait de l'évêque de Rome le chef de la communauté chrétienne la plus nombreuse du bassin méditerranéen. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que c'est à Rome que sont morts Pierre et Paul. Or, dans un régime d'autorité traditionnelle, comme l'est l'Église tardo-antique, le fait de pouvoir revendiquer la possession des reliques de Pierre et Paul donne au pape, à l'évêque de Rome, une autorité énorme. Cela fait de lui le successeur des deux apôtres les plus prestigieux. Cela veut dire que même si le pape n'a pas sur l'Église non seulement l'autorité, mais le pouvoir qu'il a à partir du XIe siècle, en particulier le pouvoir de nommer les évêques, donc un pouvoir très concret, hein, il jouit d'une autorité supérieure à celle des autres évêques, en particulier du bassin occidental de la Méditerranée, et, qui plus est, cette autorité va croissant à partir du IVe siècle. Comment se manifeste cette autorité? Eh bien, le pape est consulté par les autres évêques, voire par des laïcs ou par les communautés locales, par les autres évêques du bassin méditerranéen, et le pape répond, et les réponses du pape ont une valeur jurisprudentielle dans ce qu'on appelle le droit canon, donc la loi de l'Église. Bref, on a recours au pape comme à un arbitre dans des conflits, ou on a recours au pape comme à une autorité intellectuelle, magistérielle, lorsqu'il y a un arbitrage doctrinal ou disciplinaire à effectuer. Et les réponses du pape sont ensuite compilées et font autorité. Ces réponses, c'est ce que l'on appelle les décrétales, qui se multiplient à partir de la fin du IVe siècle. Les premières décrétales datent du pape Cyrus, le successeur de Damase, qui meurt en 399. Avant, il n'y a pas de décrétales. Donc vous voyez que l'autorité pontificale, elle est en cours de construction, puisqu'apparaît un nouveau type de document, les décrétales, qui sont des réponses du pape à des consultations ou à des demandes d'arbitrage. Ces réponses sont ensuite réutilisées dans l'Église comme des documents faisant autorité, c'est-à-dire comme de la jurisprudence. Le modèle de ces décrétales, c'est tout simplement les rescrits de l'empereur romain. Autrement dit, le pape imite dans sa sphère, qui est la sphère ecclésiastique, l'autorité qui est celle de l'Empire romain dans sa sphère, qui est la sphère politique. Puisque l'empereur légifère en grande partie par des rescrits, c'est-à-dire par des réponses à des consultations des hauts dignitaires, des fonctionnaires, des gouverneurs de province. Ce sont des réponses à ces consultations qui sont ensuite compilées dans ce qu'on appelle le code théodosien en particulier. Donc la législation impériale, c'est une législation en grande partie jurisprudentielle, par des rescrits, et c'est ce type de législation qu'imite le pape en publiant des décrétales. Et donc vous pouvez retenir qu'elles apparaissent et se multiplient à partir de la fin du IVe siècle. Puis, au Ve, VIe siècle, s'affirment deux idées supplémentaires. Première idée, que le pape, l'évêque de Rome, n'a jamais erré, qu'il n'a jamais été hérétique, qu'il n'a jamais été dans l'erreur doctrinale. Et donc, il ne peut pas errer. C'est déjà, en fin de compte, le noyau du futur dogme de l'infaillibilité pontificale. Hein, ce n'est pas quelque chose qui a été complètement inventé au XIXe siècle. Le dogme de l'infaillibilité pontificale a une très longue histoire, et même préhistoire. Hein. Donc, cette idée que le pape n'a jamais erré et ne peut pas errer, vous pouvez retenir en particulier deux documents qui la documentent. Le premier, c'est la constitution Cunctos Populos, dont on a déjà parlé, hein, il me semble, hein, de Théodose, puisque Cunctos Populos disait que dorénavant, la doctrine officielle de l'orthodoxie dans l'Empire romain, ce serait la confession des évêques de Rome et d'Alexandrie. Donc ça faisait de la doctrine de l'évêque de Rome la doctrine officielle de l'Empire romain. Cela voulait dire que l'évêque de Rome était ipso facto orthodoxe. Bon. Vous voyez que, en fin de compte, le premier document à dire que le pape n'erre pas, donc n'est pas dans l'erreur, c'est une loi civile. Hein. C'est une loi de l'empereur Théodose. C'est tout de même cocasse. Bon. Et donc c'est en 380, hein, la constitution Cunctos Populos. Et l'autre document, ce sont les lettres d'Hénode de Pavie, qui est un grand intellectuel romain d'après la chute de l'Empire romain. Donc Hénode de Pavie est actif dans le royaume de Théodoric, en Italie, autour de 500. Et Hénode de Pavie, dans le cadre des conflits qui opposent le pape à l'Empire d'Orient, en particulier au patriarche de Constantinople, ce qu'on appelle le schisme d'Anaclet, ça c'est vraiment les séquelles du concile de Chalcédoine, vous n'avez pas à vous embarrasser avec des choses aussi picrocolines. Hein. Mais Hénode de Pavie défend l'idée hein, que le pape ne peut pas errer, hein, que l'évêque de Rome, puisqu'il est sur le siège de Pierre et de Paul, ne peut pas errer, il est infaillible. Donc déjà, cette idée est présente chez un auteur comme Hénode autour de 500. Donc une primauté doctrinale, ça c'est une première idée, hein. Le pape n'a pas erré, donc c'est vraiment la pierre de touche de l'orthodoxie. Mais aussi, c'est la deuxième idée, une primauté juridique. On voit déjà se développer l'idée au 5e siècle qu'aux papes doivent être réservées ce qu'on appelle les causes majeures, c'est-à-dire les procès les plus importants à l'intérieur de l'Église. En particulier les jugements en appel ou les jugements qui concernent des évêques. Alors, cette conception de la place de la papauté au sein de la chrétienté, c'est ce qu'on appelle la conception léonine de l'Église. Vous avez deux grandes conceptions de ce que doit être l'Église, l'une correspondant à peu près à la conception aujourd'hui catholique et l'autre correspondant à peu près à la conception aujourd'hui orthodoxe. L'une est la conception léonine et l'autre est la conception cyprianique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ecclésiologies, hein, la façon dont vous concevez le fonctionnement et la nature de l'Église. L'ecclésiologie la plus ancienne, c'est l'ecclésiologie cyprianique, en référence à saint Cyprien de Carthage. Selon l'ecclésiologie cyprianique, le pouvoir des clés, vous savez Matthieu 16, hein, tu es Pierre, etc. Bon. Le pouvoir des clés a été remis collégialement à tous les apôtres à la fois. C'est-à-dire que saint Pierre, en fin de compte, n'est que le personnage principal d'un groupe auquel est remis collégialement le pouvoir des clés. Donc le pouvoir de contrôler l'accès au paradis, pouvoir sacramentel des apôtres. Il n'y a donc pas de primauté de Saint-Pierre sur les autres apôtres, dans la conception cyprianique. C'est donc, évidemment, dans une conception comme celle-là, que vous verrez se développer le concile comme instance de régulation de la chrétienté. Donc une assemblée d'évêques, où tous ces évêques sont égaux, avec seulement des différences d'autorité entre les évêques les plus vieux et les évêques les plus jeunes. C'est généralement comme ça que se fait la hiérarchie entre évêques dans un concile. C'est les derniers entrés en fonction et les premiers entrés en fonction. C'est comme ça que se fait la hiérarchie dans les processions d'entrée et dans la façon dont ils s'asseyent. Bon. La conception léonine se développe à partir du 5e siècle sous l'influence du pape Léon le Grand. Et dans la conception léonine de l'Église, qui en fin de compte est plus proche du texte de Matthieu 16, hein, le pouvoir des clés est remis d'abord à Saint-Pierre, et c'est ensuite Saint-Pierre qui le remet aux autres apôtres. Donc dans cette conception de l'Église, les évêques, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, tirent leur pouvoir d'ordre et de juridiction, le pouvoir d'excommunier, le pouvoir de délivrer les sacrements, etc. Ils tirent ces pouvoirs indirectement du Christ, par l'intermédiaire du successeur de Saint-Pierre, c'est-à-dire du pape. Donc, dans la conception léonine, celle du pape Léon le Grand, le pape vient s'intercaler comme un intermédiaire entre le Christ et les autres apôtres, c'est-à-dire les évêques. D'accord ? Donc voilà deux ecclésiologies concurrentes. L'ecclésiologie dominante jusqu'à l'époque de la conversion de l'Empire, c'est l'ecclésiologie cyprianique. Mais petit à petit, vous voyez se développer une ecclésiologie léonine qui accorde plus d'importance au pape, mais c'est un très long processus, comme vous voyez. Et je vous ai donné quelques indices hein, de ce développement. L'apparition des décrétales, qui font que dorénavant, les documents produits par le pape ont de l'autorité juridique, comme les actes de concile. Et puis les multiples références à l'autorité doctrinale du pape, qui est censée ne jamais pouvoir se tromper. Et on verra tout à l'heure l'importance, enfin tout à l'heure ou dans une autre séance, l'importance de cet élément dans la politique européenne à l'époque carolingienne. Alors, nous passons au grand D, les transformations de l'espace public. Petit 1, un régime de magistère. La conversion massive de l'Empire romain au christianisme et le poids croissant de l'Église dans la vie de l'Empire, en particulier dans sa vie politique, a un double effet sur la vie intellectuelle de l'Empire romain. Donc ça, c'est un thème important, puisque quand on parle de l'Antiquité, c'est toujours une espèce de référentiel culturel. Il y aurait eu un niveau culturel que l'on aurait perdu avec les invasions barbares et la christianisation, et que l'on aurait retrouvé à la Renaissance. Donc c'est très important de voir quelles sont les transformations qui s'opèrent vraiment hein, dans la vie intellectuelle à la fin de l'Antiquité. Alors, quelles sont ces transformations ? Première transformation. Dans le monde païen, les débats intellectuels ne concernaient qu'une assez mince élite, à la fois sociale et politique, une aristocratie qui avait reçu une éducation d'élite, que l'on appelle en grec la paideia. Une élite qui d'ailleurs se reconnaissait mutuellement par le fait qu'ils avaient partagé cette paideia. C'est un peu l'aristocratie anglaise du 19e siècle qui est passée par Oxford. C'est-à-dire qu'ils ont une façon même de parler leur propre langue qui leur permet d'identifier immédiatement qui est passé par les grandes universités, auparavant par Eton par exemple, et qui n'y est pas passé. Donc c'est un signe de reconnaissance pour cette élite, hein, la culture. Mais dorénavant, avec la christianisation, les débats qui étaient réservés à cette petite élite, pensez au banquet de Platon par exemple, c'est vraiment, c'est un peu cliché peut-être, mais c'est l'archétype de cette sociabilité intellectuelle païenne de l'Antiquité, hein. Un débat qui regroupe un petit nombre de personnes très lettrées autour d'un rituel de sociabilité, le banquet, le fait de manger ensemble, ça vous en avez plein d'autres preuves, plein d'autres témoignages que le banquet de Platon, c'est vraiment une pratique très courante. Bon. Avec la christianisation, la conception même de ce que doit être un débat change. Dorénavant, les débats intellectuels traversent toutes les couches de la société et ne sont plus réservés à une mince élite. Dorénavant, ce sont des débats de masse, des débats qui engagent la foule des fidèles, des débats populaires. Ce qui fait que les historiens récents ont même parlé de démocratisation de la culture. Dans le sillage de la christianisation de l'Empire, il y a une démocratisation des thèmes intellectuels dont s'emparent dorénavant les masses, les foules. Vous avez un passage célèbre de Grégoire de Nyssa où il se plaint qu'il ne peut pas faire un pas dehors, en dehors de chez lui, dans la rue, sans qu'on lui parle de la nature du Fils, sans qu'on débatte pour savoir si l'univers a été créé ex nihilo ou pas. Bref, il ne peut pas aller chez le barbier hein, sans qu'on lui parle de thèmes théologiques. Donc ça, c'est une véritable nouveauté. Dorénavant, des thèmes savants sont discutés à travers toutes les classes de la société, l'élite et les masses. Cela veut dire que dorénavant, quand vous avez un débat intellectuel, typiquement les controverses doctrinales que l'on a évoquées, l'arianisme, le monophysisme, etc. Lorsque vous avez un débat doctrinal au sein de l'Église, il faut savoir manipuler les foules, voire provoquer des émeutes. La foule est dorénavant un paramètre de la controverse doctrinale avec lequel il faut compter. Les différents partis, donc les ariens d'un côté, les nicéens de l'autre, sont menés par des intellectuels qui viennent de l'élite, qui sont bien formés, donc qui ont en fin de compte le même background, le même arrière-plan culturel que les participants du banquet de Platon, donc les grands intellectuels païens, souvent même ce sont leurs disciples. Hein. Rappelez-vous que Jean Chrysostome était un disciple du grand orateur païen Thémistios et que Thémistius était un peu mortifié de le voir passer au christianisme en disant « il ne va pas pouvoir me succéder bon. ». Donc vous avez vraiment une génération comme ça qui bascule hein, avec des grands maîtres païens qui voient leurs élèves passer au christianisme. Et quand vous avez une éducation comme ça, vous êtes sûr de devenir évêque rapidement. C'est ce qui est arrivé à Augustin qui est un brillant rhéteur et qui est devenu très vite évêque. Bon. Donc ça veut dire que cette élite épiscopale qui sont les auteurs de traités, des gens comme Augustin, comme Jean Chrysostome, etc., lorsqu'ils s'engagent dans une controverse publique, ils doivent maintenant à la fois s'adresser à leurs pairs, donc à des gens du même niveau intellectuel, donc il va falloir qu'ils excellent techniquement dans la discussion avec eux, mais il faut aussi qu'ils s'adressent aux masses. Donc ils se retrouvent confrontés à des impératifs un peu contradictoires en termes de public. Il faut qu'ils parlent à la fois à un public expert et à un public simple. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté et qui se perçoit, en fin de compte, quand vous regardez les textes laissés par les pères de l'Église. Il y a tantôt des traités très complexes qui, à l'évidence, ne sont destinés qu'à une partie du public, c'est-à-dire leur vis-à-vis lettré. Et il y a d'autres textes qui sont visiblement écrits pour toucher le plus grand nombre. Des recueils de questions-réponses très simples qui permettent aux masses de discuter avec les gens qu'ils croisent dans la rue, en posant des questions pour les acculer dans des impasses et donc les convaincre. Vous avez aussi même des hymnes, des chansons, des psaumes abécédaires que vous pouvez apprendre par cœur. C'est saint Augustin qui est l'auteur d'un psaume abécédaire. Abécédaire parce que chaque verset, chaque strophe du psaume commence par une lettre de l'alphabet différente, ce qui permet de mémoriser plus facilement la succession des strophes. Bref, de nous, et puis bien sûr, les sermons. Hein, les sermons qui sont là, pour le coup, une immense nouveauté. Les prêtres païens ne prêchaient pas. Hein. Donc le fait de s'adresser aux foules en abordant des thèmes théologiques, c'est une nouveauté chrétienne. Et par l'intermédiaire de la prédication, vous voyez se répandre dans l'espace public des thèmes savants qui auparavant étaient réservés à une petite élite. Donc je vous rappelle, hein, saint Augustin, on a gardé à peu près 800 sermons de saint Augustin. Ça représente à peu près 10% de ce qu'il a dû vraiment prêcher. Donc il faut imaginer un homme qui était capable de prêcher pendant trois quarts d'heure, une heure, sans aucune note, hein, et dont l'essentiel du travail, c'était ça. Il faut imaginer 8000 sermons. C'est absolument titanesque comme production. Absolument personne aujourd'hui ne produit de telles quantités de sermons. Pour retrouver des quantités de sermons pareilles, il faut aller au XVIe, XVIIe siècle. Donc l'âge d'or hein, de la rhétorique chrétienne, c'est le seul moment où c'est reproduite cette masse, cette production massive. Hein. Et puis ça a décliné ensuite. Hein. Donc ça vous montre vraiment la place de la parole dans l'espace public chrétien. Hein. Vous voyez que c'est une configuration de l'espace public qui est en train de naître, qui est beaucoup plus proche de la nôtre, en fin de compte, que ne l'était la configuration de l'espace public païen, donc pré-christianisation. Un espace public dans lequel les intellectuels étaient un milieu assez fermé qui communiquait peu avec les masses. Maintenant, on a des figures d'intellectuels publics. Bon. Mais il y a donc ça, c'est pour ainsi dire une sorte de côté positif, la démocratisation de la culture, mais il y a aussi un versant négatif, une sorte de revers de la médaille. C'est que dans le monde païen, ces débats étaient des débats ouverts, des débats à fin ouverte. D'une certaine manière, c'était des exercices dont l'issue importait peu. C'est-à-dire que ce n'était pas grave si à la fin d'un débat comme le banquet, les différents convives restaient en désaccord. C'était même structurellement nécessaire, puisqu'il y avait une diversité d'écoles philosophiques et il fallait que cette diversité subsiste. Le résultat du débat, donc le fait qu'il y ait toujours un désaccord à la fin, ne remettait absolument pas en cause la cohésion de cette petite élite sociale. Avec le christianisme, ça change complètement. Dorénavant, l'échange intellectuel devient agonistique. C'est-à-dire qu'il faut trouver la vérité et il faut décréter surtout qu'un parti a raison et est orthodoxe alors que l'autre a tort et est hérétique. Ça, c'est un changement brutal et très important. Le débat devient un débat agonistique, une sorte de lutte à mort où l'un des deux partis doit être vaincu, et non seulement vaincu, mais écrasé. Il doit être condamné. C'est pour ça que ces grands débats des 4e, 5e siècles dégénèrent en émeutes, voire en lynchage. Une autre nouveauté chrétienne dans le même domaine, c'est la notion de magistère, c'est-à-dire la notion d'autorité intellectuelle, une notion qui était globalement étrangère au monde païen. Le fait que dorénavant un groupe social, c'est-à-dire l'épiscopat, hein, exerce un contrôle sur la notion de vérité et décrète quels contenus dogmatiques sont vrais et quels contenus dogmatiques sont faux. Donc vous voyez ces deux nouveautés, hein, l'émergence de la notion de magistère et la tendance du débat à devenir agonistique, ces deux tendances pèsent de tout leur poids sur la qualité des débats intellectuels, en les rendant plus violents et en définitive en poussant à ce que les historiens appellent maintenant une fermeture de l'horizon des débats. C'est-à-dire que l'on débat, ou plutôt, pour être plus précis, on doit débattre de moins en moins pour éviter de faire éclater le scandale de la division des chrétiens qui crée tout simplement du trouble à l'ordre public. La polémique intellectuelle continue donc d'exister, mais une sorte de chape de plomb tombe sur les discussions avec un groupe qui se comporte comme un magistère et qui veut s'emparer des débats et fixer ce qu'est la vérité, et un pouvoir politique derrière, l'empereur, qui sur certains sujets décide que l'on ne doit plus en discuter. C'est-à-dire que vous avez des lois du code théodosien qui décident dorénavant il ne doit plus y avoir de discussion sur l'arianisme. Le sujet est réglé, c'est terminé, on ne doit plus en parler. Ça, c'est un thème que l'on retrouve en fait pendant tout le Moyen-Âge. Le fait que le pouvoir politique, donc bientôt le pouvoir royal, décrète que des thèmes ne doivent plus être discutés dans l'espace public. Donc ça, c'était le petit 1, donc l'émergence d'un régime intellectuel de magistère. C'est une nouveauté complète, hein, c'est une incongruité totale pour le monde païen. Alors, petit 2, canon, autorité et censure. Alors, on va approfondir dans cette deuxième sous-partie ce que l'on vient de voir, hein, c'est-à-dire quelles sont, en fin de compte, les manifestations de l'émergence de ce régime de magistère. Alors, premier mot, un mot très important dans le christianisme, le mot de canon, évidemment. Canon en grec, à l'origine, veut dire le roseau, mais par extension, veut dire la règle. C'est vraiment un synonyme du latin regula, c'est-à-dire ce qui vous permet de mesurer. Donc, le canon, littéralement, c'est la règle qui vous permet de mesurer. C'est vraiment un concept fondamental dans l'histoire de l'Église. Alors, il y a deux acceptions en particulier du terme de canon dans l'histoire de l'Église. La première acception, c'est que les dispositions des conciles sont appelées canons, au sens de règle, comme on dirait une règle en français. Donc, les différentes dispositions des conciles œcuméniques sont appelées les canons, ce qui a donc donné le concept de droit canon ou de droit canonique, c'est-à-dire la loi de l'Église. Ça, c'est une première acception. Et vous avez une deuxième acception. C'est le concept de canon des Écritures. Le concept de canon des Écritures, ça veut dire que sont considérés comme sacrés et comme valides les textes qui font partie d'un canon, c'est-à-dire d'une liste de textes acceptés. Du coup, on dit d'un auteur qui est compris dans cette liste qu'il est canonique, et d'un auteur qui en est exclu, qu'il est apocryphe. Alors d'où vient cette notion de canon ? En fait, cette notion de canon, elle s'est formée assez vite, hein, puisque dès le 1er siècle, si vous relisez, ce à quoi je ne peux que vous encourager, les lettres du Nouveau Testament, vous voyez que dès les lettres du Nouveau Testament, la figure de Saint Paul et surtout des lettres de Saint Paul jouit d'une autorité spéciale dans les premières communautés chrétiennes. Dans la deuxième épître de Pierre, il est fait référence au fait que certains membres des communautés chrétiennes interprètent mal les lettres de Saint Paul. Donc vous voyez que la deuxième épître de Pierre fait référence aux lettres de Saint Paul. Donc ça veut dire que dans les communautés chrétiennes, on lisait, donc à la fin du 1er siècle, au moment où la deuxième épître de Pierre, qui n'est pas de Pierre, a été rédigée, on lisait les lettres de Saint Paul comme des textes faisant autorité. Il y avait déjà un processus de canonisation qui était à l'œuvre et qui avait touché Saint Paul. Celui qui passe pour le véritable inventeur du concept de canon au sens de liste de livres reçus excluant des livres non reçus, c'est Marcion, donc c'est un hérétique, hein. Enfin quelqu'un qui est considéré comme hérétique à partir du IIe siècle. Donc Marcion, vous savez, Marcion est assez connu, c'est c'est celui qui disait qu'il fallait en fin de compte que le christianisme largue le judaïsme, c'est-à-dire que largue cette espèce de vaisseau porteur, bon, donc largue entièrement l'Ancien Testament et se contente du Nouveau Testament. Mais pour défendre cette thèse que le christianisme devait se séparer de sa religion mère, du judaïsme, et se contenter du Nouveau Testament, il fallait dresser une liste des livres du Nouveau Testament. Et donc, c'est Marcion qui passe pour l'inventeur du canon, puisqu'il est le premier à avoir regroupé, donc pour constituer une sorte de contrepoint au livre sacré du judaïsme, hein, il est le premier à avoir constitué un canon des livres du Nouveau Testament avec les évangiles et plusieurs lettres. Donc là, on est à Rome, vers 150. Marcion est, pour ainsi dire, l'inventeur de la notion chrétienne de canon. Un autre document très ancien qui relève de cette genèse du canon chrétien, c'est ce qu'on appelle le canon de Muratori, du nom de l'érudit italien du XVIIIe siècle qu'il a retrouvé dans un manuscrit, qui est une liste, une sorte de sommaire de la Bible, qui énumère les textes considérés comme faisant autorité, les textes considérés comme sacrés, y compris le Nouveau Testament. Donc c'est vraiment le plus ancien canon des Écritures que l'on possède, le canon de Muratori. Le problème, c'est qu'on l'a gardé en latin. On ne sait pas très bien de quand il date. Évidemment, on ne peut pas se servir des manuscrits puisqu'ils sont bien postérieurs. Donc il y a des datations pessimistes qui le datent du IVe siècle. C'est peu probable. Il faut surtout, à mon avis, d'après ce que j'ai lu, il faut le dater de la fin du IIe ou du IIIe siècle. Donc c'est vraiment un canon très ancien, le canon de Muratori. C'est vraiment la plus ancienne liste des livres sacrés chrétiens. Dans ce paysage, au sujet de ce thème, canon, autorité, censure, etc., s'il y a une personne à retenir, c'est Irénée de Lyon. Donc là, on fait un petit retour en arrière pour retourner au IIe siècle. Irénée de Lyon sont florouites, hein, donc les années où il est actif littérairement, c'est entre 150 et 190 à peu près. Irénée de Lyon, dans son traité contre les hérésies, a fixé des règles du combat doctrinal qui ont une influence déterminante sur la notion de canon dans l'Église. Il ne faut jamais oublier que c'est à la faveur de combats contre ceux que l'on considère contre les hérétiques que se forge aussi la doctrine, en réaction. C'est-à-dire qu'on est amené à préciser, à formuler de manière plus claire et plus précise des points de dogme. Donc le développement, ça c'est la thèse classique qui est déjà dans saint Paul avec le fameux « oportet hereses esse », il faut qu'il y ait des hérésies, bon, mais qu'il faut retrouver, qui a été particulièrement bien expliqué par Newman dans son essai sur le développement du dogme au XIXe siècle, c'est que le dogme croît comme un arbre en réaction à des attaques de l'extérieur, mais à partir d'une espèce d'ADN, à partir d'une souche qui fait que l'arbre en question, c'est toujours le même arbre. Donc même s'il est plus touffu, ça reste un objet de la même nature. Donc le dogme se développe, mais en restant fidèle à son origine, à son principe vital. Bon. Irénée de Lyon est l'auteur d'une formule, c'est la formule de regula, donc en latin, la regula veritatis, en grec canon thessaleteias. Et cette regula veritatis, c'est vraiment un concept très important. Hein. Elle éclaire vraiment le fonctionnement de l'Église pour ce qui regarde l'autorité intellectuelle et la polémique doctrinale. La regula veritatis, c'est une règle d'interprétation des Écritures qui est censée garantir une interprétation orthodoxe de l'Écriture pour réfuter les hérésies, et en particulier les hérésies qu'Irénée avait dans le collimateur, c'est-à-dire les gnostiques. Parce que les gnostiques citent la Bible, mais ils l'interprètent de manière parfois fantaisiste. Comment interpréter la Bible en étant sûr que l'on ne va pas dire n'importe quoi. Hein. C'est très compliqué. Il faut inventer des règles herméneutiques, et c'est ce que propose Irénée avec cette formule, la regula veritatis, donc le concept de règle de la vérité. Alors, quels sont les principes de cette interprétation orthodoxe de l'Écriture ? Premier principe, c'est justement le concept de canon en lui-même. Donc, je vous décris les trois grands paramètres de la regula veritatis d'Irénée de Lyon. Premier principe, le canon, au deuxième sens que nous avions identifié tout à l'heure, c'est-à-dire une liste des livres reçus, des livres sacrés. Pour interpréter la Bible correctement, il faut d'abord savoir quels livres doivent être considérés comme sacrés et quels livres ne doivent pas être considérés comme sacrés. Donc, quels livres font autorité et quels livres ne font pas autorité. Parce que les gnostiques s'appuyaient sur des évangiles gnostiques que la plupart des communautés chrétiennes rejetaient. Donc il faut commencer par fixer ce qui est les textes qui peuvent être commentés et les textes qui ne peuvent pas l'être. Comment fait-on pour fixer cette liste, pour Irénée, la règle qui permet d'insérer un texte dans la liste des livres reçus, c'est l'apostolicité. Donc un livre doit être reçu dans le canon des Écritures légitimes si c'est un texte produit par un apôtre. Donc toujours cette fidélité aux origines. Donc le critère qui permet d'être reçu dans le canon, c'est le critère de l'apostolicité. Le fait que les lettres et les évangiles, donc les différents livres du Nouveau Testament, ont été produits par des apôtres. Et ensuite, une fois que vous avez votre stock de livres dont vous êtes sûr, vous comparez leur contenu aux autres livres. Et si le contenu est divergent, vous écartez les autres livres. C'est comme ça qu'ont été écartés des évangiles gnostiques, qui parfois étaient attribués à des apôtres. Mais cette attribution avait la réputation de ne pas être sûr, c'est-à-dire qu'il y avait quand même toujours un concept de réputation qui était important, c'est-à-dire qu'on disait, oui, l'évangile de Thomas, il est attribué à Thomas, mais on n'est pas sûr, et puis quand on regarde le contenu, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on trouve dans les autres évangiles. Donc vous voyez, on commence par établir une base sûre, c'est-à-dire des livres qui sont attribués aux apôtres, et ensuite on les compare avec les autres livres pour écarter ceux qui sont potentiellement hérétiques. Le deuxième principe, c'est le concept de consonantia en latin, symphonia en grec, c'est-à-dire l'idée que pour interpréter harmonieusement un texte, il faut l'interpréter en consonantia, c'est-à-dire en harmonie, en accord avec les autres textes du canon. Donc concrètement, quand vous avez un passage difficile de la Bible, pour l'interpréter, l'interprétation juste, c'est celle qui ne va pas entrer en contradiction avec d'autres passages de votre liste de textes. Donc, la bonne interprétation, c'est l'interprétation consonante. Celle qui fait entrer en résonance les textes les uns par rapport aux autres pour éliminer les contradictions. Et donc, pour respecter cette règle, il faut commencer par expliquer les textes clairs et ensuite aller des plus clairs aux plus difficiles, puisque c'est à l'aide des textes clairs que vous allez pouvoir commenter les textes les plus difficiles. Avec toujours l'idée qu'il ne peut pas y avoir de contradiction dans les Écritures. Ça, c'est le deuxième principe d'Irénée, le principe de consonantia. Et le troisième principe, c'est celui de tradition, mais qui dorénavant est institutionnalisé. C'est-à-dire que, encore une fois, la question qui anime Irénée, c'est de quoi puis-je être sûr ? C'est vraiment une question de méthode importante. Quels sont, en fin de compte, les contenus dont je peux être sûr, dont je peux dire ils sont orthodoxes, ils sont fermement inscrits dans la tradition, dans l'Écriture. Et comme pierre de touche de la vérité, Irénée s'appuie d'abord sur le kérygme, c'est-à-dire sur l'annonce de base du christianisme, un Dieu créateur dont le Christ est le Fils. Donc voilà la première règle transmise par la tradition. Et ce qui me permet d'être sûr que c'est vrai, c'est le personnel qui transmet cette vérité que l'on a vue la semaine dernière, c'est-à-dire les évêques qui sont les successeurs des apôtres. Donc en fin de compte, chez Irénée, ce qui permet d'être sûr, en fin de compte, que l'Écriture dit la vérité et que les contenus de foi présents dans l'Écriture sont vrais, c'est que les gens qui lisent l'Écriture et qui la gardent, c'est-à-dire le clergé, le monoépiscopat qu'on a vu émerger la semaine dernière, bon, ces gens-là sont les successeurs des apôtres. Donc, en fin de compte, on pourrait dire que la troisième règle, c'est la règle de la succession apostolique. Ce qui garantit que l'Église est dans la vérité, c'est que le personnel de l'Église, ce sont les successeurs des apôtres. C'est la raison pour laquelle Irénée insiste lui-même sur le fait qu'il est le disciple de Polycarpe, et que Polycarpe était le disciple de saint Jean. Et que donc, il est relié, lui aussi, à cette chaîne apostolique qui remonte aux apôtres. Il raconte une scène très amusante sur... Eusèbe de Césarée la raconte aussi, sur saint Jean, qu'il tenait donc de Polycarpe. C'est qu'un jour, saint Jean, vous imaginez saint Jean très vieux, nonagénaire, quoi. Saint Jean se rend au bain, ce qui est normal, tout le monde se rend au bain. Bon. Il se rend au bain avec un petit entourage de disciples, et il apprend qu'au bain se trouve aussi Cérinthe, Kérinthos, l'un des premiers grands hérétiques de l'histoire chrétienne. Bon, il est toujours dans les listes d'hérétiques, Cérinthe, donc un gnostique. Et en apprenant qu'il est dedans, il prend la fuite parce qu'il ne veut pas se baigner dans la même eau que Cérinthe. Ça aurait été considéré comme une souillure rituelle hein, de se baigner dans la même eau qu'un hérétique. Donc vous voyez la rencontre fortuite entre le vieux Saint-Jean et l'hérétique Cérinthe au bain, et Saint-Jean se carapatant en apprenant que Cérinthe était dans les bains pour ne pas le rencontrer, mais surtout pour ne pas être exposé à ce danger d'une souillure rituelle. On n'insistera vraiment jamais assez sur le fait que ces communautés, c'est une société assez traditionnelle qui est très attentive à la notion de souillure rituelle. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que vous avez une solidarité vraiment étroite entre le texte d'un côté et sa canonisation, et de l'autre, le personnel, la question de l'encadrement. Plus on institutionnalise le texte avec un canon, plus on institutionnalise le personnel aussi, avec un épiscopat qui est réputé remonter par la succession apostolique au temps du Christ lui-même. La croissance de ces deux formes d'autorité, le personnel d'un côté, le texte de l'autre, est concomitante, et plus concomitante, elle est solidaire. C'est en fin de compte, c'est pour ça que le catholicisme n'a jamais abandonné le concept de tradition. C'est parce que la sainteté même des Écritures dépend de ce personnel épiscopal qui descend des apôtres. Vous ne pouvez pas, dans l'esprit d'Irénée, mais c'est tout à fait intuitif, vous ne pouvez pas retirer la tradition, c'est-à-dire la succession apostolique et l'idée d'un legs oral, non écrit, sans retirer en même temps le canon des Écritures. Donc les canons, comme ceux qu'on vient de voir, se multiplient à partir des 3e, 4e siècles, au moment où on est à l'apogée de la période des pères de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que les pères de l'Église, dès le 5e siècle, donc cette grande génération des polémistes chrétiens comme Augustin, Ambroise, Jean Chrysostome, etc., cette génération-là est très vite touchée, elle aussi, par la canonisation. C'est-à-dire que dès le 5e siècle, les pères de l'Église sont considérés eux aussi comme les auteurs de textes faisant autorité, et donc il faut créer un canon de ces auteurs faisant autorité. Dès le 5e siècle, apparaissent, de la même manière qu'il y avait un canon des Écritures, hein, apparaissent des compilations d'œuvres de ces pères de l'Église, ou bien des florilèges qui témoignent du fait que le processus de canonisation continue et touche en fin de compte tous les auteurs chrétiens s'inscrivant dans cette longue tradition apostolique, puisque la plupart sont des évêques, et qui sont reçus dans la longue série des textes faisant autorité. Les premiers florilèges, donc, ils datent du 5e siècle. Hein. C'est en particulier dans le sillage de saint Augustin, chez les disciples de saint Augustin, que se développent les premiers florilèges. Hein. Prosper d'Aquitaine, Eugippe de Castellum Loculanum, donc les grands disciples d'Augustin, font des florilèges des œuvres d'Augustin, pour que sur n'importe quel sujet, on puisse savoir ce qu'a pensé Augustin. Sur tel sujet, qu'est-ce qu'a dit Augustin? Si Augustin l'a dit, ça doit être vrai. Donc les pères de l'Église sont touchés très vite par ce phénomène de la canonisation. Donc Prosper, Eugippe. Bon. Et c'est un mouvement qui s'accentue et qui est vraiment caractéristique du Moyen-Âge. Hein. Ce sont les recueils, ces florilèges, qui finissent par produire dans l'Espagne visigothique des recueils de sentences. Alors, je vous parle de ça parce que ça, on ne le verra pas parce que c'est au-delà de la période que j'envisage, mais au Moyen-Âge central, les recueils de sentences sont très importants. Vous le savez peut-être, les grands recueils de sentences de Pierre Lombard, etc. Donc, ils sont des longues successions de phrases tirées soit de la Bible, soit du droit canon, soit des pères de l'Église, et qui étaient des phrases faisant autorité et qu'il fallait commenter. Hein. Donc, qu'on commentait, qu'on glosait dans les écoles du XIIe siècle et puis à l'université lorsque celle-ci eut été fondée. Ces recueils de sentences, les premiers, ils datent du Haut Moyen-Âge. Hein. Donc, ils apparaissent au 7e, 8e siècle en Espagne visigothique, en particulier chez Isidore, qui est l'auteur d'un livre des sentences, qui est en très grande partie pompé de Grégoire le Grand et de saint Augustin. Donc, c'est des livres thématiques hein, qui abordent tous les aspects de la foi et de la vie chrétienne en livrant des sentences, c'est-à-dire de simples phrases énoncé vraiment d'une manière très très directe, hein, disant ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, donc là, on entre vraiment dans le Moyen-Âge avec ce processus. Le Moyen-Âge, c'est la période qui reçoit non seulement les textes sacrés, c'est-à-dire la Bible, mais qui reçoit aussi le canon des pères de l'Église, avec la tâche écrasante de les commenter et de produire à partir d'eux une doctrine claire. Vraiment, vous voyez que le moment décisif en termes de canonisation, hein, c'est les 4e, 6e siècles. C'est le moment où la période des pères de l'Église s'achève et où on commence à dresser des listes des pères de l'Église et des textes qui font autorité parmi eux ou non. Le texte qui couronne, qui parachève cet édifice, hein, c'est le décret pseudo-gélasien, le Decretum Gelasianum. Donc, le décret pseudo-gélasien, c'est une liste produite en Gaule au 6e siècle, qui est un faux décret, donc une fausse décrétale en fait, hein, du pape Gélase, Gélase qui meurt en 499. Et ce décret dresse une très longue liste des textes canoniques d'un côté et apocryphes de l'autre. Donc c'est une liste de tous les textes de la Bible qui doivent être reçus. Le titre originel du Decretum Gelasianum, c'est Decretum de Libris Recipiendis et Non Recipiendis, donc des livres qui doivent être reçus et des livres qui ne doivent pas être reçus. Vous voyez toujours comme l'hérésie et l'orthodoxie sont associées l'une à l'autre. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'orthodoxie a besoin de l'hérésie, de l'hétérodoxie pour dire ce qu'elle est. Il faut dénoncer l'erreur pour dire ce qu'est la vérité. Donc le décret pseudo-gélasien fait une longue liste des textes de la Bible qui doivent être considérés comme sacrés, donc reçus, et des textes apocryphes, donc vous avez tous les évangiles apocryphes dedans. Et il fait la même chose avec les pères de l'Église derrière, hein, en disant quels sont les pères de l'Église qui doivent être reçus, et lesquels ne doivent pas être reçus. Et le terme reçu doit être vraiment interprété comme ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous les ayez chez vous. Il ne faut pas les avoir chez soi. C'est la raison pour laquelle beaucoup des textes des hérétiques ont été perdus, ont disparu, c'est parce qu'ils ont été éliminés, parfois sans pitié, parfois très mollement, c'est pour ça qu'on en a gardé certains autres, comme ceux d'Origène. Et vous avez comme ça plusieurs exemples d'autodafé, hein, donc de livres qui sont brûlés, de livres d'hérétiques qui sont brûlés. Je vous donne juste un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. Au concile de Tolède III, de 589, qui est le grand concile de conversion des Visigoths, les livres des Ariens, donc ce sont donc la religion de laquelle ils se convertissent au christianisme nicéen, c'est-à-dire le catholicisme, les livres des Ariens ont été solennellement brûlés pendant le concile. Donc quand on dit libri non recipiendi, des livres à ne pas recevoir, ça veut dire malheureusement souvent l'élimination physique de l'objet livre. Il y a plusieurs exemples de bûchers comme celui-là. Pendant tout le Haut Moyen-Âge, évidemment, au Moyen-Âge central, ça reprend de plus belle. Alors, je conclus ce chapitre sur l'Église antique. Nous sommes arrivés maintenant au 5e, 6e siècle, c'est-à-dire la chute de l'Empire d'Occident. Vous avez un Occident qui est encore imparfaitement christianisé, surtout dans les campagnes et surtout aux marges. Mais le christianisme est quand même solidement implanté, en particulier dans l'élite et dans les villes. C'est-à-dire qu'avec la conversion de l'empire, c'est-à-dire de l'empereur, l'élite a massivement rejoint les rangs du christianisme, ce qui fait que les rois barbares, à leur installation sur le sol de l'empire, ont face à eux une église forte, soudée, théologiquement unifiée, contrairement à l'Orient, c'est-à-dire que les controverses interminables de l'Empire d'Orient, c'est-à-dire bientôt de l'Empire byzantin, en particulier entre chalcédoniens et monophysites, ne touchent pas l'Occident. Tout le monde est nicéen et chalcédonien en Occident. Une église, enfin, qui est bien structurée par le réseau épiscopal. Une église, enfin, qui sert de bastion à l'identité romaine et à la culture romaine, en particulier celle de l'élite. Bref, les rois barbares ont face à eux un vis-à-vis de taille. Et donc, dans le cours suivant, ce que l'on va voir, c'est comment vont réussir à s'articuler d'un côté cette identité romaine, dorénavant très solidaire du christianisme, et l'identité des nouveaux venus, c'est-à-dire des barbares, qui eux aussi ont fait le choix du christianisme, mais un autre christianisme, le christianisme arien, christianisme homéen, pour être plus précis. Est-ce que la religion va être un obstacle à l'entente entre les nouveaux chefs, donc les barbares, et les nouveaux dominés, c'est-à-dire la majorité gallo-romaine et son élite aristocratique? Ou bien, au contraire, le christianisme sert-il de pont, hein, en fin de compte, entre ces deux cultures? Enfin, donc ça c'est là-dessus que je termine ce cours-ci, j'insiste sur l'importance de cette période tardo-antique. Hein. La chute de l'Empire, c'est vraiment une plus qu'une césure, c'est une cassure dans l'histoire de l'Église, parce que tout le Moyen-Âge garde la nostalgie de l'Empire chrétien, de l'Empire de Théodose. Hein. C'est resté, pour les chrétiens, une espèce de période épique où se retrouvent tous les grands-pères de l'Église qu'ils admirent, qu'ils citent et qu'ils commentent en permanence dans leurs écoles. Le niveau intellectuel des pères de l'Église, de fait, n'est pas rejoint hein, avant les XIIe, XIIIe siècles. L'Empire romain reste aussi le modèle à imiter pendant tout le Moyen-Âge. Et donc tout l'effort du Moyen-Âge va être d'une manière ou d'une autre hein, de restaurer et d'imiter cette primitiva ecclesia, hein, l'Église primitive, l'Église des origines, celle d'avant la chute de l'Empire romain.